France Cardinal Remède, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, on parle de comment composer avec l'hospitalisation d'un proche. Évidemment, c'est une période de la vie qui peut être extrêmement anxiogène. Ça peut arriver aussi de façon très soudaine. Il y a quand même certaines façons, certains moyens de s'y préparer. Et peut-être que la première chose, c'est de pouvoir avoir avec soi les renseignements nécessaires et requis.
Oui, c'est ça. En fait, tu sais que chaque année, une personne sur 10 dans la population âgée de 15 ans et plus est hospitalisée, mais à l'âge de 85 ans, c'est 4 fois plus. Alors, ces données-là nous viennent de l'Institut de la statistique du Québec, des données de 2013. Alors, bien sûr, c'est un sujet d'actualité, hein?
Oui.
Alors, ayant œuvré dans le milieu des services à domicile, on recommandait toujours aux personnes, surtout celles qui souffraient d'une maladie chronique, de prévoir en tout temps, en cas d'un transfert de dernière minute à l'urgence d'un hôpital, de prévoir de recueillir certaines informations puis de les afficher soit sur le frigo ou de les conserver dans un portefeuille, comme par exemple la liste des allergies, la description des médicaments avec le nom de la pharmacie, le nom des médecins traitants avec leur numéro de téléphone, les personnes à joindre en cas d'urgence, surtout si on vit seul, hein, ça peut être important là, d'avoir le nom d'un fils, d'une fille qu'on doit rejoindre, et évidemment la carte d'assurance maladie. Là, je résume ça comme ça. Il y a d'autres éléments aussi, là, mais principalement d'avoir ça, puis de penser à ne pas apporter d'objets de valeur avec soi.
Et c'est... pourquoi ça, France Cardinal Remette?
Bien, parce que on pourrait les perdre rendus à l'urgence, hein, parce qu'on nous met une jaquette, on enlève nos objets, on met ça dans un sac sous la civière, puis on ne sait pas trop où ça va. Alors, c'est préférable de pas. Puis de toute façon, on n'en a pas besoin.
Oui. Hein? Une fois rendu à l'hôpital, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'avoir près de nous un professionnel de la santé à qui se référer.
Oui, tout à fait. C'est important l'accompagnement, quand c'est possible, là. Parce que vraiment, cette personne-là devient le porte-parole hein, de la personne qui est malade, qui est hospitalisée, parce que c'est elle qui va souvent rapporter ce qui a provoqué le problème, depuis quand, il va le décrire. Aussi, des éléments auxquels on ne pense pas toujours à dire, mais pour le personnel soignant, de savoir, par exemple, que la personne n'a pas uriné depuis 24 heures, ou n'est pas allée à la selle depuis 24 heures, ou n'a pas pris ses médicaments depuis telle période de temps, qu'elle a des allergies, qu'elle ne s'est pas alimentée, etc. Tous ces petits détails-là sont très importants. Par exemple, ça peut amener la décision de poser un cathéter si on n'a pas uriné depuis très longtemps, etc., ou d'installer évidemment une intraveineuse avec un soluté. Il y a des éléments à surveiller également. Les personnes, entre autres, âgées de 75 ans et plus, sont très à risque de perdre leur autonomie dès qu'elles sont allongées sur une civière pendant une longue période. On va parler d'une période allant jusqu'à 24 heures et plus. C'est qu'après même 24 heures, la personne souvent va avoir beaucoup de difficultés à se mobiliser. Après, va avoir une grande perte d'autonomie déjà. Alors, il y a cet élément-là à surveiller. Le risque d'être désorienté, hein, quand on est âgé, on se retrouve dans un milieu où tout est blanc, tout le monde court, on n'est pas très stimulé, peut amener des problèmes cognitifs. Et aussi, l'autre élément qui est important, c'est qu'on peut risquer de développer des plaies de pression graduellement. Ça commence par une rougeur, une surface au plus qui peut être comme un dollar, là, une pièce d'un dollar ou même plus grande. Alors, c'est à surveiller parce que le personnel court très vite. Et des fois, on doit collaborer avec eux pour leur signaler des petites difficultés.
Comment on procède à ce moment-là, France? On leur signale tout simplement?
On leur signale tout simplement. J'ai déjà eu à le faire, moi, pour des proches. Mais c'est important aussi de demander au personnel soignant s'il est possible de lever la personne pour quelques minutes régulièrement pour la faire marcher, pour aller à la toilette, par exemple. Quand c'est possible, bien sûr. Aussi, c'est important de bien s'hydrater, donc d'encourager la personne à prendre des liquides si elle y a droit et d'utiliser des crèmes pour la peau. Veillez à ce que sa peau soit intacte, bien nettoyée après avoir été à la selle, entre autres. Puis il existe des crèmes barrières là, qui peuvent être appliquées. Ils en ont dans les urgences. Alors, on peut demander d'en appliquer pour prévenir justement une plaie de pression. Alors, c'est important aussi que la personne soit stimulée.
Ah oui.
On peut lui parler des nouvelles qui circulent dans les médias, la température extérieure, etc.
On peut apporter de la musique,
Oui,
de la
c'est ce que
lecture.
j'allais dire, la musique, la lecture, quand c'est possible, là, quand ils sont dans une petite chambre à l'urgence, là, c'est possible, mais quand ils sont dans un corridor, peut-être moins, là, c'est une question de jugement. Maintenant, l'autre étape, bon, si la personne est admise, que doit-on prévoir? Alors, peut-être penser à faire un petit sac qui rassemble ses effets personnels, un peignoir léger, des sous-vêtements, des chaussettes évasées. C'est-à-dire des petits bas là où la cheville où ça serre pas à la cheville, on appelle ça les bas pour diabétiques là, c'est important. Des pantoufles avec semelles rigides pour éviter les chutes. Brosse à dents, une trousse de rasage si c'est un homme. Et si la personne a une prothèse dentaire, ben s'assurer d'avoir un contenant bien identifié. Et j'ai rajouté aussi trousse confort quand on est admis. Bon, si on est sensible au son environnant, prévoir des bouchons anti-bruit pour les oreilles, masque de voyage pour se protéger de la lumière. Il y a des gens qui font ça. S'apporter des bouteilles d'eau, des biscuits craquelins non salés si la diète le permet, oui. En cas qu'on a un petit creux, papier mouchoir, des lingettes, calepins, crayons. Puis pour se divertir, ben des gens qui apportent des mots croisés, sudoku. Et d'autres vont lire des journaux, magazines ou même louer l'appareil télé dans la chambre. Oui. Bon, ce sont des éléments.
Vous parliez tout à l'heure, France, de la prothèse dentaire, évidemment, c'est important de l'amener. Il y a aussi tout ce qui est, bon, verre correcteur, les appareils auditifs, il faut y penser si la personne est partie en ambulance et qu'elle n'a pas ça avec elle.
Oui, exactement. Alors, c'est ça, j'arrivais à cet élément-là. À l'urgence, on peut lui faire porter les appareils auditifs ou les verres correcteurs, mais c'est mieux de les ramener pour pas les perdre. Mais quand la personne est admise, bon, on peut voir là, dans quel contexte, dans quel environnement on est. Et ces éléments-là peuvent effectivement aider la personne à être davantage orientée. Alors, c'est un point bien important que tu soulèves, Marianne.
Oui.
Maintenant, comment naviguer dans le système hospitalier?
Ça, on
Alors,
aura besoin
beau,
de vous,
là,
France.
C'est très technique ce que je viens de dire, mais là, tout l'autre aspect là, qui est beaucoup plus... Le rôle des proches, en fait, mais le proche devient vraiment un trait d'union entre la personne et l'équipe soignante. Il recueille des informations, il va en redonner des informations. L'équipe soignante peut lui en donner aussi. Bon, c'est un échange continuel et qu'il faut stimuler, hein, parce que c'est pas évident. Alors, il faut stimuler cette communication-là, puis ne pas se gêner pour poser des questions, aller voir l'assistante, entre autres, au poste quand on sait pas trop où se diriger. On dit qu'on peut communiquer des informations sur des tests qui ont été été faits récemment pour les renseigner, bon, si c'est pas dans le dossier. Alors, on a vraiment, comme aidant, un rôle central hein, face à cette équipe-là.
Oui.
Aussi, les proches peuvent être appelés à se prononcer sur des options de soins ou autres, là, en collaboration avec la personne hospitalisée, bien sûr. Puis, ils peuvent être appelés à défendre ses intérêts aussi dans certaines situations. Hein. On va dire un rôle d'advocate en anglais, là, mais on l'utilise beaucoup dans le milieu de soins, hein, ce rôle-là. Qui peut se faire de façon très diplomate puis très courtoise,
oui.
Là, mais on peut avoir à défendre certains points pour aider la personne.
Il y a des attitudes à privilégier, j'imagine.
Oui, il y a des attitudes à privilégier, c'est sûr. Demeurer toujours poli, courtois, même quand on est épuisé et déçu, parce qu'on va l'être déçu, hein, c'est pas un monde parfait, nulle part. On peut être déçu dans un magasin quand on va faire des achats, mais on peut l'être aussi dans un milieu hospitalier.
Oui.
Mais je pense que c'est important de se rappeler que personne n'est parfait, que chaque professionnel ou intervenant a sa personnalité et son vécu, et qu'aussi ils en ont beaucoup, hein. Ils sont très occupés dans les milieux, ils doivent fonctionner par priorité. Alors, il faut respecter ça. Et attendre son tour bien souvent, mais avec respect, courtoisie, comme je le mentionnais.
C'est un milieu complexe, vous le disiez, où tout le monde est affairé, très occupé. On peut se sentir démuni, déboussolé rapidement dans un milieu qui n'est pas le nôtre habituellement.
Oui,
en France.
Oui, oui, tout à fait. On peut se sentir démuni, avoir l'impression que les choses tournent au ralenti.
Oui.
Et c'est normal, parce que oui, ça tourne au ralenti. C'est comme ça. On doit s'ajuster, hein. Le système hospitalier a ses propres règles et on ne peut pas aller plus vite qu'eux. Par contre, il faut détecter c'est qui nos personnes ressources les plus qu'il faut cibler, qui sont les plus précieuses pour nous. Par exemple, puis c'est pas toujours évident, on peut avoir commencé avec le médecin et je dirais le personnel administratif, l'infirmière-chef ou son assistante. Souvent, c'est l'assistante qui va être plus qui aura plus ce rôle-là de communiquer avec nous. Il y a l'infirmière, bien sûr, au chevet qui peut donner des informations, qui peut soutenir. Aussi, s'il s'agit d'une situation de santé, de maladie chronique là, ou d'un cancer, bien, il y a souvent un intervenant pivot dans le milieu hospitalier qui est vraiment la personne qui coordonne le dossier du patient, même si ce n'est pas sur le même étage. Elle coordonne. Alors moi, j'ai découvert ça là, à travers mes expériences. Alors, il faut questionner. Puis souvent, les gens vont nommer des noms. Alors, il faut noter ces noms-là puis aller vérifier. Et souvent, ça va nous aider à faire le point avec eux. Moi, je l'ai vécu encore récemment là, avec un proche que j'aidais. Là, c'était l'infirmière pivot. Puis elle était tellement charmante. Elle connaissait le dossier. Elle m'a soutenue tout au long du séjour. Alors, c'est bien important.
On se traîne un petit calepin et un crayon pour prendre des notes. Hein. Je pense
oui,
que ça peut être un bon outil.
C'est très important de prendre des notes. Ou si on a un iPhone, il y en a plusieurs qui ont des iPhones maintenant, peuvent tout inscrire leur information là ou une tablette. Alors, on choisit ce qui nous convient à nous là pour prendre les renseignements qui nous conviennent.
Et si on a besoin de se faire remplacer, si on a besoin de repos, on en parlait tout à l'heure avec une intervenante psychosociale, France.
Oui.
Il faut exprimer ses limites, exprimer sa fatigue et demander parfois de se faire remplacer.
Oui, tout à fait. Alors, la question des ressources, ça peut être des proches, hein, des proches qui peuvent nous remplacer. Il faut questionner autour de nous. Souvent, les gens sont très content de venir nous remplacer. Ils n'osent pas le faire, mais il faut aller demander. Écoute, là, ça fait 2 semaines que je cours partout, je suis épuisée, je prendrais bien un petit après-midi pour moi, irais-tu le voir, parce que c'est bien qu'on soit là pour... Alors, c'est assez rare que les gens vont refuser. Oui. Là, je pense qu'ils vont plutôt vous aider, aider la personne. Mais en cas de pénurie de ressources parmi les proches, il existe toujours des ressources privées. Moi, j'avais fait recours dans le passé à une préposée engagée d'une agence privée qui allait aider un proche à se nourrir. Parce que cette personne-là avait une AVC et avait beaucoup de difficultés à se nourrir. Il y allait une fois par jour durant la semaine pour parce qu'on travaillait tout le monde, hein, c'est difficile. Alors, elle allait, puis là, on était certain qu'au moins le midi, cette personne-là avait un bon repas, puis on prenait le temps de la nourrir tranquillement, puis de l'accompagner là-dedans. Alors, ça peut être une ressource précieuse aussi pour une période de temps où c'est plus intense. Hein? Ça peut être intéressant. Et il y a aussi des bénévoles qui font des visites amicales. Il s'agit de vérifier dans son secteur, dans son milieu. Il y a des réseaux de bénévoles partout. On parlait même dernièrement des ressources... j'allais dire les grands frères, mais c'est pas les grands frères. Là.
Les petits frères. Oui, voilà. Alors, voilà. On se renseigne, on glissera, bien sûr. Nous, on continue à glisser ces ressources-là sur notre site.
Oui.
Et je pense qu'il faut se rappeler, encore une fois, allons chercher de l'aide et exprimons aussi cette fatigue-là si on la ressent en tant que proche. France Cardinal-Remette, merci pour ces précieux conseils.
Bien, merci.
Dans une période de vie qui peut être extrêmement difficile et prenante. Je rappelle, vous êtes infirmière, enseignante aussi auprès de futurs infirmiers et infirmières. C'est toujours un plaisir de s'entretenir avec vous, France.
Bien, merci beaucoup, Marianne.
Au revoir.
Au revoir.